En droit d'immigration, un nom qui ressort, du moins au Canada francophone, c'est celui de Maître Stéphane Anfield, qui est avocat spécialisé en droit d'immigration. Il est mon invité aujourd'hui. Maître Anfield, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi le droit de l'immigration? Pourquoi avoir décidé de faire une carrière dans ce domaine?
Oh, bonne question. En fait, le choix de se lancer dans la carrière d'avocat s'est fait autour du secondaire 4 environ. Initialement, c'est drôle à dire, mais je m'orienterais beaucoup plus dans une carrière de policier. Et, de fil en aiguille, on a pris la voie des sciences humaines, option droit au collège, donc au cégep Onsic. Et à cette époque-là, un de mes enseignants était un avocat de pratique privée, un criminaliste, Maître André Lapointe, qui m'a enseigné et qui m'a vraiment donné le goût de se lancer dans une carrière d'avocat. Je voyais tout le côté humain. On dit souvent le cliché, défendre la veuve et l'orphelin, mais c'était vraiment ça. Donc, tout le côté humain, le côté de défense des droits, combattre l'injustice, alors ça m'a vraiment allumé. Et c'est un prof qui enseignait beaucoup la pratique et non pas simplement la théorie. Ce qui fait que, bon, de fil en aiguille, le bac, le barreau, et par la suite, ben tout à fait par hasard, la clientèle de l'immigration a commencé à se greffer à celle du droit criminel. Et j'ai été nommé commissaire à la commission de l'immigration et du statut de réfugié au poste de commissaire à la section de protection des réfugiés, donc les demandeurs d'asile, pendant 11 ans. Donc, évidemment, lorsque je suis retourné à la pratique privée en 2005, c'était clair pour moi que je poursuivais dans cette voie-là. Donc, l'objectif initial de devenir avocat, de combattre les injustices, défendre les droits des individus, ça se mariait très bien avec le droit d'immigration parce qu'on s'entend que c'est souvent des gens qui sont vulnérables, qui sont démunis. Dans certains cas, des gens qui demandent une deuxième chance. Alors, c'était clair pour moi que c'était cette voie-là que je devais prendre.
Ça
va faire maintenant 25 ans.
Ça prend absolument une ouverture d'esprit totale pour faire ce genre de travail-là. Et un, on compte pas ses heures. Non. Et deux, la facturation est très, dans certains cas, aléatoire. Il y a beaucoup de pro bono.
Il y a beaucoup de pro bono, mais moi, j'ai décidé à une époque de ma vie d'être heureux dans le travail que j'allais faire. Et je vais toucher du bois, mais il n'y a pas une journée où je me suis levé un matin et je suis entré au travail à reculons. Oui, il y a des journées qui sont un peu plus difficiles. Oui, il y a des dossiers qui sont un peu plus difficiles, des dossiers qui sont émotivement plus difficiles, des dossiers où on va s'investir davantage. Mais oui, il y a un abandon, il y a une ouverture d'esprit, mais il y a surtout le goût et le désir d'aider, de trouver une solution à une problématique. C'est souvent ça notre travail. Il y a un problème et trouvons la solution pour que tout le monde y trouve son compte.
Déjà fait dire parfois, hey Stéphane, t'es pas tanné de défendre des étrangers?
Parfois, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Ça arrive beaucoup trop souvent qu'on se fait dire, toi pis tes maudits immigrants, qui sont pas contents, qui restent donc chez eux. Tu fais rentrer des illégaux, tu défends un criminel, on n'a pas besoin de ça ici. C'est malheureusement trop souvent le discours qu'on entend, mais à l'inverse, on a aussi des belles reconnaissances des gens qui nous croisent et qui nous disent « on vous suit, continuez votre bon travail, lâchez pas, on a besoin de gens comme vous qui vont défendre les droits des individus ». Fait qu'on a aussi l'envers de la médaille.
Qu'en est-il des relations avec les autorités qui, municipales, qui, gouvernementales, provinciales et fédérales?
Oui. Ben, si on parle du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, ben c'est sûr que on a des fois des accrochages. Évidemment, on a un dossier à représenter, on a des intérêts à défendre, ceux de notre client, et souvent, ben on se heurte à des portes closes.
Mm-hmm.
Du côté fédéral, je dois dire que depuis le changement de gouvernement, il faut le dire, il y a une plus grande ouverture, plus grande écoute. C'est indéniable. C'est le jour et la nuit avec le gouvernement précédent.
À ce point-là, oui.
Le jour et la nuit, pendant tout le règne des conservateurs, lorsque je faisais des demandes d'intervention ministérielle, je n'ai jamais reçu une réponse. Je n'ai jamais même reçu d'accusé de réception aux demandes écrites que je faisais, alors que depuis la venue au pouvoir du nouveau gouvernement, ben on a des accusés de réception, on a des contacts avec les chefs de cabinet des deux ministres, responsables de l'immigration, bon, l'Agence des services frontaliers du Canada, donc le ministre de la Sécurité publique, et le ministre de l'Immigration. On a des contacts, on parle avec des gens. On n'a pas toujours gain de cause, mais il y a une ouverture et il y a une transparence et au moins il y a une écoute.
Est-ce qu'il y a un problème systémique dans l'accueil du réfugié ou est-ce que c'est un système qui roule bien? Est-ce qu'on a à apprendre d'autres États ou est-ce qu'on a des expériences ici qui peuvent servir ailleurs sur la planète?
Bien, ce qu'on entend souvent, c'est que le système qu'on a au Canada est copié, si je peux dire, là, à travers le monde. Les gens vont s'inspirer du système canadien. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que le système est parfait et qu'il ne doit pas être amélioré? Bien au contraire. On le voit qu'il y a encore certaines lacunes. On est passé d'une extrême à l'autre. À l'époque, et je recule il y a quelques années, une personne qui faisait une demande d'asile au Canada devait attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans dans certains cas avant de pouvoir expliquer sa situation à un commissaire. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi créée par les conservateurs, on parle d'un délai maximum de 60 jours. Ben, ça a un effet inverse. C'est-à-dire que les gens ne réussissent pas à obtenir la documentation nécessaire au sujet de leur demande d'asile.
Mm-hmm.
Ça leur est reproché par les décideurs. Ça va beaucoup trop vite. Même aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de remises de façon administrative par le tribunal de l'immigration parce que la machine n'est pas capable de suivre. Alors, on passe d'un extrême à l'autre. Je pense que si on devait revoir les délais de traitement un peu à la hausse, ça ne veut pas dire de revenir dans les années passées et qu'on parle de délais de 2 à 3 ans. Mais si on parle d'un délai de 6 à 10 mois pour qu'une personne qui demande le statut de réfugié soit entendue par la suite par le tribunal, je pense que ce serait un délai fort raisonnable et que la machine administrative serait capable de suivre le tempo et les individus seraient aussi en mesure de pouvoir obtenir la documentation nécessaire au sujet de leurs allégations de crainte.
Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous disent « les réfugiés en attente, les demandeurs, ils nous coûtent cher, il faut les loger, il faut les nourrir, ils nous coûtent cher ».
Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est un peu absurde comme raisonnement, mais également comme situation, parce qu'une personne qui demande le statut de réfugié, on ne lui accorde pas de permis de travail. Alors, on l'oblige, finalement, à recourir aux services sociaux et, par exemple, à l'aide sociale.
Mm-hmm.
Pourquoi ne pas, dès qu'une personne fait sa demande d'asile au Canada et qu'elle est jugée admissible, pourquoi ne pas lui délivrer immédiatement un permis de travail? Moi, je vous dis, pour la très grande majorité de ces individus qui viennent au Canada demander la protection, ils ne veulent pas bénéficier des services. Ils veulent pouvoir travailler. De toute façon, ces gens-là, c'est des gens qui sont fiers et qui veulent montrer aux membres de leur famille qui les ont accompagnés, l'épouse, les enfants, qu'ils vont subvenir aux besoins de leur famille et qu'ils n'ont pas besoin du gouvernement pour le faire. Mais on les empêche de le faire. On leur donne pas de permis de travail. Dans certains cas, pour certains pays, la demande de permis de travail, elle est non possible pour une période minimale de 6 mois. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là puissent subvenir à leurs besoins? On les force, d'une certaine façon, à recourir aux services sociaux.
On les force à recourir aux services sociaux.
Ben oui, si on les empêche de travailler, ils n'ont pas d'autre alternative que de recourir aux services sociaux et à l'aide sociale.
Ou au travail au noir, c'est ça, oui.
Ou travailler au noir. Je fais une parenthèse, c'est un peu comme il se passe actuellement avec l'entrée d'immigrants illégaux par la frontière canadienne avec la frontière américaine. On empêche les gens de pouvoir faire une demande d'asile à la frontière canadienne s'ils n'ont pas déjà fait une demande d'asile aux États-Unis qui a été refusée ou qui n'ont pas un membre de la famille déjà en territoire canadien. Ces gens-là, on les condamne à utiliser des voies illégales pour entrer au Canada. Alors que si on abolissait cette entente de tiers pays sûr avec les États-Unis, ben les gens n'auraient aucun intérêt à franchir illégalement la frontière et se présenteraient aux autorités canadiennes de plein gré. Ils revendiqueraient le statut de réfugié, ils seraient pris en charge par les autorités. Alors c'est un peu la même chose au niveau des réfugiés à qui on empêche d'obtenir un permis de travail. On les empêche de pouvoir travailler pendant l'étude de leur dossier. C'est un peu un non-sens.
Maître Enfield, il y a un changement majeur qui s'est passé en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec l'élection du président Trump.
Oui.
En quoi est-ce que vous pensez que ça risque de teinter votre pratique et l'arrivée de demandeurs de statut de réfugié?
Bien, écoutez, on le voit déjà. Et je pense que, bon, on peut essayer de trouver d'autres explications, d'autres raisons qui font en sorte que, décembre 2015, à peine 20 personnes ont franchi illégalement la frontière canadienne. Décembre 2016, on en a plus de 300. Et ça ne cesse d'arriver. Alors, est-ce que c'est uniquement l'arrivée de M. Trump au pouvoir? Bon, ce serait difficile de le dire, mais chose est sûre, ça a un effet, évidemment. Autre chose, au niveau des étudiants étrangers, on a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent au Canada au lieu d'aller étudier aux États-Unis. On va me dire, oui, mais le taux de change et les frais de scolarité doivent jouer. Évidemment, évidemment, je ne le conteste pas, mais je pense aussi que l'arrivée de ce gouvernement-là, de ce président-là, fait en sorte que des individus qui souhaitaient étudier aux États-Unis décident finalement de venir au Canada. Mm-hmm. Et on le voit que beaucoup d'étudiants américains également décident de venir étudier au Canada.
C'est vrai, ça. Il y a beaucoup d'étudiants américains qui viennent étudier ici.
Oui, exactement. C'est sûr que, bon, le taux de change, les frais de scolarité doivent jouer. Mais pour les étudiants étrangers, je crois plutôt, mais je me trompe peut-être, mais j'ai pas de preuves, mais je pense que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump fait en sorte que les individus, ben écoutez, moi si j'étais à leur place, mettons que je suis un étudiant libanais et j'ai le choix d'aller étudier aux États-Unis avec l'attitude du gouvernement ou de venir étudier au Canada avec l'attitude du gouvernement canadien, ben je pense que la décision serait pas difficile à prendre. Hein.
Maître Enfield, le monde est de plus en plus rapproché avec médias, médias sociaux, commentaires et j'en passe, et images. Avec toute la déferlance qu'a connue l'Europe de demandeurs de statut de réfugié arrivant essentiellement de Syrie, et puis les vagues également depuis la chute de Kadhafi en Libye vers l'Italie, la grande ouverture qui a été faite par Angela Merkel en Allemagne risque de se retourner contre elle et son peuple aussi, qui dit « il y en a trop là ». Est-ce qu'il y a un point où ça risque de culbuter au Canada? Et est-ce qu'on est très près de ce point-là ou est-ce qu'on est loin?
Je pense qu'on est très loin. Une des raisons majeures, c'est l'océan qui nous sépare d'avec l'Europe. La mobilité des individus en Europe est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile pour... Et je ne veux pas minimiser non plus la difficulté que ces gens-là peuvent avoir pour atterrir en Europe. Mais si on parle d'un Syrien, on va s'avouer que c'est beaucoup plus facile d'atterrir en Europe que d'atterrir au Canada ou aux États-Unis. Bon, c'est différent, par exemple, nous, si on parle des individus de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine, un Mexicain qui veut avoir accès au territoire canadien, bon, ben, ça va être plus facile parce que, bon, il va passer par les États-Unis, bon, et etc. Mais pour un Syrien, alors, ou un Irakien, ou même un Libanais, c'est pour ça que je doute qu'on puisse vivre ce que les Européens, en particulier l'Allemagne, vit actuellement, justement à cause de l'éloignement. Il n'y a pas 10 000 façons pour un Syrien d'arriver au Canada. Mm-hmm. C'est par bateau ou c'est par avion.
C'est
et
pas...
avec les mesures de contrôle qu'on a actuellement, c'est vraiment difficile. Alors, je crois pas qu'on va vivre ni à court terme ni à moyen terme une situation comme celle que l'Allemagne vit actuellement.
Il y a 7-8 ans, quand j'animais Tam Tam Canada, la quotidienne, je vous avais reçu avec une jeune demoiselle, Laetitia Angba,
oui.
Une jeune fille qui faisait face à l'expulsion. C'est un point fort dans votre carrière.
En toute humilité, je peux vraiment dire, en 25 ans de pratique, ça a été ma plus belle victoire. Et ça a été la plus belle victoire, parce que ça a été une victoire d'équipe. On se souviendra, pour vos éditeurs, je vais le rappeler brièvement, Laetitia Angba est une jeune fille de la Côte d'Ivoire, arrivée au Canada très jeune, à l'âge de 6 ans, parrainée par son père. Et le ministère de l'Immigration voulait interdire le père de territoire au Canada pour fausse déclaration. On alléguait qu'il avait commis un geste de polygamie, c'est-à-dire qu'il était déjà marié lorsqu'il s'est remarié avec une citoyenne canadienne dans le but d'immigrer au Canada. Et puisque la jeune fille... son dossier était lié à celui de son père, eh bien, les autorités avaient décidé que le sort allait être le même que celui de son père, c'est-à-dire l'expulsion du Canada. Alors, on s'est battu devant, évidemment, la section d'appel de l'immigration. On avait perdu et les médias s'étaient emparés de ce dossier. Une chance que les médias avaient embarqué, ce qui fait que la machine, qui est très grosse, hein, l'immigration, c'est une grosse machine, bien, on avait pratiquement, on se battait à armes égales avec les médias. Et on avait fini par faire comprendre raison au ministère et ils ont décidé finalement d'annuler cette décision d'expulser Laetitia. Et aujourd'hui, ben cette jeune fille, elle est maintenant citoyenne canadienne, elle a fait des études en droit et se lance dans une carrière d'avocate.
Ah, tiens donc!
Oui.
C'est une des raisons aussi pour lesquelles on rentre au travail des fois? Pour des prochaines Laetitia?
Oui, mais d'un autre côté, c'est en même temps l'effet pervers. On s'investit tellement personnellement dans un dossier comme celui-là. On se dit, on ne peut pas, parce qu'à l'époque, la jeune fille avait 16 ans. On se dit, on peut pas laisser tomber cet enfant-là. Et lorsque l'enfant vous dit, en plus, la cliente qui vous dit, maître Enfield, ma vie est entre vos mains.
Ouf.
C'est une pression énorme. Et tu ne peux pas échouer. Mais quand tu perds en première instance et tu dis, bon Dieu, est-ce qu'elle va être dans l'avion demain? Oui, c'est ça nous fait apprécier notre travail, mais d'un autre côté, émotivement, c'est dur aussi.
Mm-hmm. Et c'est avec ce dossier ou avec un autre, vous êtes allé jusqu'en Cour suprême?
Ça a été avec un autre dossier, un dossier d'un réfugié roumain. C'est un dossier d'extradition. En fait, le gouvernement roumain accusait l'individu d'avoir vendu un faux visa Schengen. Bon, à l'époque, on n'avait pas l'Union européenne. Pour 900 $ américains, on attendait monsieur avec une sentence d'environ 6 ans pour un faux visa de 900 $ américains. Alors, on s'était battu, évidemment, pour faire tomber cette demande d'extradition parce qu'on invoquait que c'était un dossier bidon puisque monsieur avait été reconnu comme réfugié et étant gitan. Et on connaît, bon, l'attitude des autorités roumaines.
Les tziganes, c'est ça, oui.
Exactement. Bon, on avait perdu cour supérieure. Le ministre avait refusé, avait ordonné l'extradition. Bon, ministre de la Justice, cour d'appel, on perd, demande d'autorisation à la Cour suprême. L'autorisation est accordée, on est entendu et la Cour suprême nous avait donné raison. Et c'était un point bien, bien particulier. Puisque c'était un réfugié, nous, ce qu'on invoquait, c'est que c'était au ministre à faire la preuve que monsieur ne devait plus bénéficier de la protection du Canada, qu'il n'avait plus de crainte pour lui de retourner en Roumanie, alors que le ministre avait décidé que c'était à nous à faire la preuve qu'il craignait toujours de retourner en Roumanie et qu'il devait toujours bénéficier de la protection du Canada. Mmh. Alors, la Cour suprême avait dit non. Il est un réfugié reconnu. C'est au ministre qui va ordonner l'extradition de démontrer qu'il ne doit plus bénéficier de la protection du Canada. Le dossier, j'aurais espéré que la Cour substitue sa propre décision et qu'elle annule l'extradition. Malheureusement, la Cour suprême avait décidé seulement que d'annuler la décision du ministre et de retourner le dossier sur son bureau pour qu'il réétudie de nouveau avec les directives. Malheureusement, le ministre avait décidé d'aller de l'avant une deuxième fois avec l'extradition et monsieur avait décidé de mettre fin aux procédures là, pendant... Écoutez, il était détenu pendant tout le processus. Et on parle d'un processus qui avait duré plus de 3 ans et demi. Alors, il avait décidé de mettre fin à son combat. Il a été extradé vers la Roumanie.
Maître Enfield, après toutes ces années, toujours passionné, j'ai l'impression.
Plus que jamais. Il y a encore des beaux dossiers qui s'en viennent. Bon, il y a un nouveau gouvernement. Je sais qu'autant à Québec qu'à Ottawa, on est en train de plancher sur des modifications législatives en matière d'immigration. Donc, ça risque d'être fort intéressant pour les années à venir.
Maître Stéphane Enfield, avocat spécialisé sur les questions d'immigration, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui.
Ce fut un réel plaisir.